Bonjour, bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Et ce matin, on s'intéresse à une sorcière déguisée en fée, le sucre qui ensorcelle nos enfants, qu'il s'agisse de boissons sucrées, de céréales du petit déjeuner, de barres chocolatées, de bonbons ou de gâteaux. Difficile pour eux de résister à cette source inépuisable de plaisir, sans compter tous les sucres cachés dans l'alimentation industrielle. Mais le sucre est-il vraiment dangereux pour des enfants en pleine croissance? Quels sont les effets d'une surconsommation sur leur organisme et leur cerveau? Peut-il s'agir d'une addiction? Comment limiter leur appétence pour le sucre? Quelles sont les alternatives aux desserts et boissons sucrées? Et vous, comment vous y prenez-vous pour limiter le sucre dans l'alimentation de vos enfants? Quel rapport entretiennent-ils avec le sucre? Nous attendons vos témoignages par courriel, grand bien vous fasse, à radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Chloé et Colline attendent vos coups de fil. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons Il était une fois dans le web, la chronique de notre Scheherazade de la vie numérique, Julia Foyce.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Hey, Bob, t'imagines pas la taille des glaces dans ce monde? C'est peut-être pareil pour les barbes à papa. Elles doivent être géantes.
Oh, il y a assez de calories là-dedans pour faire un tour du monde au pas de course.
Sucre.
Un extrait de la série animée Bob l'éponge. Pour répondre à la question comment rendre nos enfants moins accros au sucre, trois invités. Serge Hamed, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neurobiologiste, directeur de recherche au CNRS à Bordeaux. Bonjour Erwan Montéour.
Bonjour.
Coach sportif, auteur d'Et si on arrêtait d'empoisonner nos enfants chez Solar. Bonjour Béatrice de Rénal.
Bonjour.
Docteur en nutrition. Alors petite question préalable, avez-vous des liens avec l'industrie agroalimentaire, Serge Hamed?
Non, moi je ne vends rien du tout.
Et remontez-vous?
Ah, moi je me suis toujours fait un devoir de n'avoir aucun contact avec eux.
Béatrice de Rénal?
Oui, bien sûr. Nous on est. Enfin, je suis conseil pour certaines marques, pour certains groupes, notamment d'un point de vue scientifique, c'est-à-dire que je donne des avis par rapport à l'environnement, ce qui se passe, par rapport à l'épidémiologie. Je fais partie de programmes de recherche européens, notamment la Optifel qui est en train de s'achever. C'est un programme européen. On est une 35 partenaires, mais essentiellement de la recherche et quelques industriels dedans.
Eh bien, c'est dit, merci pour votre transparence. Serge Hamed, qu'est-ce que le sucre?
Donc, on va parler de principalement, j'imagine, du saccharose. Le saccharose, lorsqu'on le consomme, si vous voulez, se comporte comme un élément essentiel au fonctionnement de notre organisme, puisqu'il va être la source principale d'énergie pour toutes les cellules de notre corps. Mais on va dire qu'on a découvert récemment qu'en plus de cette fonction biologique essentielle, il se comportait effectivement comme une drogue.
On verra ça tout à l'heure.
Exactement, je vous donnerai les détails tout à l'heure.
Béatrice de Rénal.
Maintenant, le suspense.
Béatrice de Rénal, quelles sont les différences entre les sucres lents et les sucres rapides? Est-ce que cette distinction est pertinente d'ailleurs?
Oui, elle est encore pertinente, même si il faut savoir ce qu'on met dans les cases. Après, quand on dit sucre, il y a effectivement le saccharose, mais il y a aussi le sirop de glucose fructose qui fait sans doute beaucoup plus de dégâts que le saccharose. Donc le saccharose, en fait, c'est le sucre de table, c'est le sucre de betterave ou de canne à sucre, c'est le même. Il est composé de deux sucres simples qui sont le fructose d'une part et le glucose d'autre part. Et le sirop de glucose-fructose, c'est un mélange de l'un et de l'autre, mais avec souvent des proportions de glucose qui sont très élevées. Et le glucose ne goûte pas le sucre. Donc vous mangez du sucre sans le savoir, c'est celui-là qui est dangereux. Parce que quand vous mangez un morceau de sucre, vous savez que c'est sucré. Quand vous buvez un soda, vous savez que c'est sucré. Sauf s'il était édulcoré, bien sûr. Donc c'est là où c'est trompeur.
Alors quand on parle de sucre, vaut-il mieux parler d'indice glycémique?
Non plus.
Parce que je rappelle que l'indice glycémique permet de classer les aliments en fonction de l'élévation de la glycémie, oui, qu'ils produisent quand on les consomme.
Quand on les consomme à jeun le matin, ce qui est assez rare dans la vraie vie. Donc en fait, on préfère parler de charge glycémique. Donc une charge glycémique, c'est vraiment très clair. Dans un repas, vous avez une charge glycémique, c'est-à-dire quelle est la quantité de sucre simple que vous avez mangé. Je dis sucre simple pour faire simple. C'est-à-dire, voilà, parfois, quand vous mangez un repas qui est très, très riche en sucre ajouté, surtout quand il ne goûte pas le sucre, parfois vous consommez beaucoup de sucre et vous vous en rendez même pas compte.
Donc il vaut mieux parler de charge glycémique.
La charge glycémique est beaucoup plus exacte.
Ouais. Et Ronan Théour, le sucre est-il pour vous une substance qui empoisonne, une substance toxique? Je subodore la réponse.
Alors oui, sans aucun doute, à cause de l'exposition chronique au sucre. On sait aujourd'hui, par exemple, qu'on a des lymphocytes dans le corps qu'on appelle les lymphocytes NK, les natural killers, qui, lorsqu'on a une injection, une consommation de sucre, eh bien, ils vont s'endormir. Donc c'est un vrai problème déjà, ça c'est le premier. Après, s'il y a des grandes quantités de sucre qu'on absorbe, on sait qu'on a des hypoglycémies réactionnelles, ça va faire du pré-diabète, ça va amener au diabète. On sait qu'on peut aujourd'hui lier directement la consommation de sucre à l'épidémie d'obésité partout dans le monde. Je vous rappelle qu'en 2030, en France, il y aura 35% de la population qui sera obèse et à peu près 45% chez les enfants. Donc oui, directement, on peut dire que c'est un poison.
Alors, vous combattez le sucre visible dans les friandises, les gâteaux, et puis les sucres bien planqués dans les produits industrialisés. Pour vous, les enfants sont les cibles privilégiées de l'industrie agroalimentaire.
Alors oui, alors à ce titre, il y a Michael Moss qui a écrit un livre sucre, sel, etc., là, qu'il a fait il y a 2 ans. Et il a discuté avec Jeff Redden, qui était président de la branche Amérique de Coca-Cola, qui disait qu'il avait quitté Coca-Cola en 2005 parce qu'il avait été choqué, parce qu'il y avait eu une charte en fait éthique chez Coca-Cola jusqu'au début des années 90, où on disait on n'ira pas en dessous des enfants de 12 ans. Et là, ils ont été au Brésil et ils s'attaquaient aux enfants de 3, 4, 5 ans. Et puis il disait aussi, ce monsieur, qu'on pouvait directement calquer la consommation des boissons, des sodas, avec la courbe d'obésité aux États-Unis entre 1980 et 2000. Donc oui, il y a un vrai sujet autour de ça.
Michael Moss, l'auteur de l'ouvrage « Sel, sucre et matière grasse, comment les industriels nous rendent accros ». Béatrice de Rénal, vous comprenez cette diabolisation du sucre nécessaire de toute façon dans l'alimentation des enfants ?
Alors, d'abord, je suis pas sûre que les enfants, que tous les enfants, y compris les petits-enfants, aiment le sucre, parce que, vous voyez, il y a des enfants qui n'aiment pas le sucre, on l'a vu tout à l'heure. Moi-même, j'ai des enfants qui sont, dont une qui a 8 ans, qui n'est pas accro au sucre, ni aux bonbons, ni au soda, etc. Donc, en fait, là, c'est une question, sans doute, d'éducation, mais pas que. Diaboliser. En fait, si vous voulez, on est un peu obligé d'alerter, puisque sinon, les choses se font insidieusement, et puis on se retrouve avec un taux d'obésité important, même si l'obésité, elle n'est pas due que au sucre, elle est vraiment due à un déséquilibre alimentaire global où le dedans il y a effectivement trop de sucre et trop de matière grasse et aussi avec des contenus nutritionnels qui sont médiocres, c'est-à-dire qu'on donne à manger aux enfants des choses qui n'ont pas de nutriments, qui ont ce qu'on appelle les calories vides. Le terme est impropre aussi, mais enfin au moins il est clair.
Bonjour Thomas.
Oui, bonjour.
Vous vous appelez de Suisse, bienvenue dans l'émission. Où en Suisse exactement ?
À Montreux.
Bien. Alors, comment ça se passe, les rapports de vos enfants avec les produits sucrés ?
Bah écoutez, au départ, comme n'importe quel parent, on s'aidait à pas mal de sucreries, et puis voilà. Et finalement, nous avons décidé de tout arrêter, tout supprimer d'un coup, et donc tous les sodas dont vous parliez, les barres chocolatées, enfin tout ce dont vous parlez. Et pour éviter les drames à la maison, on a favorisé, entre guillemets, l'éducation. Alors, on n'a rien de parfait, hein, mais on s'est documenté nous-mêmes. Sur YouTube, vous trouvez énormément de documentaires justement sur le sucre, comment aux États-Unis ils ont travaillé ce marketing. Et puis, vous en sortez complètement effrayé. Alors, vous coupez les ponts du jour au lendemain sur le sucre. Et puis, pour éviter les drames, vous leur expliquez petit à petit. Alors, elles ont 10 et 8 ans, hein, mes filles. Alors, vous expliquez ce qu'elles peuvent comprendre. Et puis, vous expliquez un peu comment, mécaniquement, comment fonctionne le sucre et comment le corps réagit face au sucre. Et pas plus tard qu'hier, on discutait encore, donc c'est un peu le hasard, sur le rôle du pancréas. Alors on parle pas de cancer, on parle pas de tout ça, mais parce que j'ai entendu dernièrement quelqu'un qui était mort du pancréas, et puis quand on étudie le rôle du pancréas, alors si vous leur donnez des petites clés comme ça, comme des Legos, en disant bah voilà, alors ce petit machin, il sert à ça, et puis ça sert à ça. Alors t'imagines si tu manges tout ça, oui t'as raison papa, et bien tu sais combien il faut de grammes dans le sucre, dans le sang normalement il faut 1 gramme. Ah bon, ah très bien, alors si tu fais ah oui, puis si vous commencez à jouer comme ça.
Thomas, ça peut être un peu terrorisant, non, pour vos enfants, non ?
Non, alors pas du tout, parce qu'on se marre et puis on rigole et puis on.
Ah oui, on se marre avec sur le pancréas.
Là, c'est... Tu vas mourir.
Bah écoutez, vous savez, je vais vous dire, je crois qu'on peut tout, on marrer sur tout et n'importe quoi. Moi, je vois sur YouTube des vidéos de TEDx de.
Oui, alors
Béatrice Rénal. Béatrice Rénal.
Oui, en fait, effectivement, je pense que c'est très bien d'expliquer les choses aux enfants avec vos mots. Bon, c'est parfait, ça je vois pas d'inconvénient. Après, si vous voulez, c'est aussi une question de d'abord pourquoi vous donnez des bonbons aux enfants comme une récompense. Nous, les plus vieux aujourd'hui autour de cette table, on a été récompensés. Ah ben si tu fais pas ci, tu seras privé de dessert. Et pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on prive pas plutôt de choses essentielles de façon à ce que j'en ai envie après. Quoi. Donc, si vous voulez, les frites, c'est pareil. Les frites, c'est une récompense, presque. Donc, il faut arrêter de faire de l'alimentation une récompense ou une punition.
Le rôle du pancréas, dont parlait
c'est très important.
Thomas.
C'est-à-dire que, le sucre, si vous voulez, il va être métabolisé très, très vite. C'est d'où l'intérêt, parce que quand vous avez besoin d'un coup de fouet, comme on dit, un morceau de sucre, effectivement, ça va vous donner un coup de peps. Mais à ce moment-là, ça veut dire que le glucose, le pancréas va sécréter l'insuline. Et c'est cette... Les Américains qui ne mangent pas du saccharose, du sucre, de betterave, mais vraiment du sirop de glucose fructose, ils sont en perfusion d'insuline toute la journée. Et de là, ça provoque le diabète et après le syndrome métabolique.
Et Erwan Montego, je suis sûr que vous pourriez être ami avec Thomas. Oui, vous avez une petite fille aussi, j'imagine que vous lui tenez le même type de discours.
Bah oui, nous, culturellement, on mange très peu de sucre à la maison, on ne prend pas de dessert, mais il y a plein d'autres choses qui sont formidables à manger. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a, oui, on parle de ces sucres-là qui sont traités sous forme de récompense, mais il faut savoir que quand même dans notre alimentation, 56,3% de notre consommation de sucre est issue des produits industriels, or 80% de notre alimentation est d'origine industrielle. Et, je fais très vite, il y a une raison à cela. C'est après le principe de commodité. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on prend des céréales le matin? Parce que c'est facile, on se dit c'est sain. En fait, ce sont des confiseries. Pour un bol de 30 grammes, il y a 11 grammes de sucre. Et il y a un mec qui est à l'origine de ça, qui s'appelle Howard Moscovitz, et qui a découvert ce qu'était le bliss point, le point de félicité. Alors peut-être que Serge pourra nous parler de ce que c'est que le point de félicité, mais c'est un ajout de gras, de sucre et de sel qui rend les gens cinglés.
Alors, cinglé est un petit peu fort, mais je pense que effectivement, quand vous avez un sujet qui est déprimé, vous lui donnez une alimentation riche en sucre et riche en énergie, plus qu'il en a besoin, et il va mieux. C'est-à-dire qu'il c'est un peu anxiolytique, c'est vrai. Et l'obésité aujourd'hui, quand on observe dans les populations les plus défavorisées, c'est parce que l'alimentation est utilisée à des fins anxiolytiques.
Thomas, comment ça se passe avec vos enfants quand ils sont invités à un anniversaire ou chez des amis où il y a des bonbons?
Alors, écoutez, non, mais alors, justement, ce que je veux vous dire, on est très très souple. C'est-à-dire que quand elles sont avec les grands-parents, les grands-parents se font complètement avoir, comme tous les grands-parents, et c'est le jeu. Et c'est pas grave. L'idée, c'est de trouver un équilibre en disant, tu vas à un anniversaire, oui, tu vas te gaver avec le gâteau, mais c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est comme... Si à la maison, dans le quotidien, ce qui est le principal, on favorise les fruits, on est...
C'est l'exposition qui fait le poison.
Voilà, c'est-à-dire qu'on fait pas de, on n'achète pas de plats préparés, parce qu'on sait qu'on est exposé au gras, au sel, enfin tout ça.
Merci. Donc, Thomas.
Voilà, il y a un juste équilibre. Si elles ont piqué une fois trois parts de gâteau chez un copain,
merci,
bon,
Thomas.
Ça mène à rien, c'est pas grave.
Merci Thomas pour votre témoignage depuis la Suisse. Et vous, comment faites-vous pour limiter la consommation de sucre chez vos enfants? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 et par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. Alexia Rivière et Claire Destacant m'ont aidé à préparer cette émission avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Jérôme Boulet. À suivre, les méfaits d'une surconsommation de sucre chez nos enfants. Et bonjour Julia Foyce.
Bonjour Ali Rebbe.
À tout à l'heure.
Bonjour tout le monde.
Pour être une fois dans le web.
Nous sommes martiens, Baila, les cracheurs de feu de l'enfance. Le trajet qui n'en finit pas et la banquette arrière immense. Nous sommes Riverside Park, les pelouses dans les centres-villes. Nous sommes les beaux jours qui débarquent. Nous sommes les amours imbéciles. Chaleur, les soirs de retour. les appartements retrouvés, la vie qui continue son cours. Sur notre enfant, les mêmes alarmes pour les choses qui nous alarmaient. Nous sommes la vie ce soir, nous sommes la vie à cet instant, et je te suis sur le trottoir, et je te regarde à présent.
La belle balade de Vincent Delerme à présent.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h23, comment rendre nos enfants moins accros au sucre? C'est la question posée ce matin avec la nutritionniste Béatrice de Rénal, le chercheur en addictologie Serge Hamed et avec l'écrivain spécialiste de bien-être Erwan Montéour. Bienvenue Isabelle, vous appelez
oui,
Damien.
Bonjour.
Alors comment vous y prenez, vous, pour limiter la consommation de sucre chez vos enfants?
Eh ben, en fait, je rejoins ce que disait votre intervenante Béatrice de Rénal tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, du départ, je cuisine. J'adore cuisiner. Donc, je contrôle déjà la quantité de sucre que je vais mettre dans les plats, quand je fais mes confitures, etc. Et je n'ai jamais dit à mes enfants que les bonbons ou les chocolats, ça n'existait pas. Mais ça reste dans un cadre festif.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que, voilà, ben, on va à un anniversaire, il y a un goûter d'anniversaire, on va choisir des bonbons, c'est sympathique, ça fait partie du plaisir de se retrouver ensemble, etc. Et pour le reste, pour le reste du temps, j'ai jamais de bonbons ni de chocolat à la maison.
Et je crois savoir, Isabelle, que vos enfants sont devenus sensibles au goût trop sucré?
Oui, c'est-à-dire que, en fait, on n'est pas non plus parfait à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je vais acheter des jus de fruits. Bon, ça, je choisis quand même des purs jus à la base, mais tout le monde sait que c'est très sucré. Et donc, ma petite dernière qui a 14 ans, quand elle va prendre un jus de fruits, va rajouter de l'eau dedans parce qu'elle estime que c'est trop sucré.
Béatrice de Rénal.
Oui, alors en fait, les purs jus, il n'y a pas de sucre ajouté. C'est le sucre intrinsèque du fruit. Donc, il faut pas confondre la densité sucrée que vous pouvez percevoir avec la teneur en sucre. Je vais vous prendre un exemple. Si je vous donne, par exemple, un jus d'orange qui est très acide, vous avez l'impression qu'il est sucré. Mais si je vous donne un jus de melon qui n'est pas acide, vous aurez l'impression qu'il est trois fois plus sucré. Or, il y a moins de sucre dans du melon que dans de l'orange. Donc, plus le jus est acide, et puis moins vous aurez l'impression que c'est sucré. Donc, le pur jus, il n'a pas de sucre ajouté.
Et on montait où ?
Alors, il faut préciser quelque chose, c'est que les enfants, quand ils sont en pleine construction, hein, pendant leur enfance, ils ont une capacité de supporter le sucre beaucoup plus importante que la nôtre. Or, on conditionne leur palais très tôt pour qu'ils prennent du sucre. Donc, non seulement avec ce qu'on fait avec l'industrie agroalimentaire, comme j'en parlais tout à l'heure, mais juste pour que les gens le sachent, c'est le CEDUS, c'est-à-dire l'organe de propagande du sucre en France, qui est chargé de la semaine du goût. C'est eux qui élèvent le goût de nos enfants à l'école. Je vous laisse réfléchir là-dessus.
Merci beaucoup Isabelle de nous avoir appelé. Damien, alors Serge Hamed, les enfants sont la catégorie de population qui mange le plus sucré, ce sont les plus réceptifs au goût sucré, et ce, dès les premières heures du nourrisson ?
Oui, tout à fait, on est avec une appétence pour le goût sucré. Il y a même des études chez les enfants prématurés qui montrent que dès le 7e mois, en fait, il y a des réactions hédoniques agréables à une solution sucrée.
Donc, pourquoi ?
Disons que c'est une préférence qui a été établie biologiquement dans un environnement qui était, on va dire, où cette préférence était adaptative, fonctionnelle, utile, bénéfique. Aujourd'hui, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. L'environnement alimentaire a considérablement changé. On est sollicité matin, midi et soir, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année par des produits qui contiennent du sucre rajouté. Dans ce contexte-là, cette préférence qui antérieurement était adaptative est devenue maladaptative puisqu'elle conduit au surpoids, à l'obésité et aux complications médicales associées, diabète, hypertension, etc.
Est-ce que cette appétence des enfants pour le goût sucré est comparable à une addiction ? J'aimerais que vous parliez de vos expériences sur des souris, par exemple.
Avant de parler de ça, je voudrais vous dire ce que je disais dans mon introduction, qu'on peut aujourd'hui prétendre que dans le sucre, il y a une composante drogue. Et pour pouvoir bien vous expliquer ça, je vais vous rappeler très rapidement ce qu'est une drogue. Donc une drogue, comme par exemple la cocaïne ou l'héroïne, c'est une substance qui, lorsqu'elle est consommée, passe dans notre sang, pénètre dans notre cerveau, et dans notre cerveau va modifier l'activité de certains neurones, donc et produire tout un tas d'effets psychologiques et comportementaux. Et parmi ces effets-là, on a des effets dits de récompense qui vont finalement établir nos habitudes mais nos habitudes de consommation et nous pousser finalement à répéter la consommation. Et ce mécanisme-là va, chez certains individus, induire un état d'addiction qui est caractérisé, on le dit aujourd'hui, par une perte de contrôle sur la consommation.
Alors Serge Hamed, je rappelle que vous êtes neurobiologiste spécialiste dans les addictions. Lors de vos expériences sur des souris en surconsommation de sucre, vous avez constaté que privées de leur substance, elles modifiaient leur comportement.
Nous, ce que nous avons montré, si vous voulez, c'est que lorsque l'on propose à des animaux le choix entre du sucre et une drogue, la vaste majorité d'entre eux se détournent de la drogue pour consommer du sucre. Et même si pendant des semaines, ils ont eu de la drogue seuls, et ils ont développé une tolérance, même une sensibilisation aux effets récompensants de la drogue, tout un tas de modifications neurobiologiques dans leur cerveau qui indiquent qu'ils ont été exposés chroniquement à la drogue. Et malgré ça, lorsque vous leur proposez une boisson sucrée, ils se détournent de la drogue pour consommer cette boisson sucrée.
La cocaïne, en l'occurrence.
Donc la cocaïne, ces expériences ont été établies avec la cocaïne initialement. Et aujourd'hui, elles ont été reproduites dans d'autres laboratoires avec d'autres drogues. Et donc aujourd'hui, c'est avec la méthamphétamine, la nicotine et également l'héroïne.
Et qu'est-ce qu'on constate du point de vue du comportement de ces souris qui surconsomment du sucre ?
Eh bien, écoutez, elles développent...
De l'anxiété ?
Donc, pendant le sevrage, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, effectivement, lorsqu'elles sont sevrées de sucre, elles présentent un syndrome, on va dire, qui ressemble, il est peut-être moins sévère, mais il ressemble en fait au syndrome de sevrage que l'on observe avec les opiacés comme l'héroïne ou la morphine.
Mais est-ce qu'on peut extrapoler ces recherches sur les souris sur les êtres humains ?
Écoutez, donc ça c'est la grande question bien sûr. Donc concernant nos systèmes neurobiologiques de récompense, tout ce que nous savons aujourd'hui sur les drogues, nous l'avons étudié chez l'animal et toutes ces découvertes ont été ensuite confirmées lorsqu'on a pu les confirmer chez l'homme. D'accord ? Donc il y a une continuité biologique au niveau du système de récompense entre les animaux et les hommes. Nous sommes bien évidemment des animaux. La grande différence entre nous et les animaux, c'est que nous, on a un cortex préfrontal qui est beaucoup plus développé, qui nous permet justement d'anticiper les conséquences négatives de nos comportements. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens comme Erwan Manteur qui lance un certain nombre d'alertes sur des phénomènes de société, donc la surconsommation de sucre, que l'on a découvert grâce justement à nos recherches qui conduisent à des conséquences négatives. Et donc il faut effectivement que les gens sachent que dans le sucre, il y a une composante drogue qui peut finalement influencer leur comportement alimentaire.
Le pédiatre Patrick Tounian, professeur Patrick Tounian, affirme que le risque principal entraîné par l'excès de sucre est non pas la surcharge calorique, et donc l'obésité, mais l'exposition à d'éventuelles carences nutritionnelles.
Oui, c'est ce que disait Madame Reynal tout à l'heure, c'est les calories vides, ce que vous disiez.
C'est-à-dire que si vous donnez à un enfant...
Il conteste l'idée qu'il puisse s'agir de sevrage, qu'on puisse dire que quand on manque de sucre, quand les enfants, on les prive de sucre, il conteste l'idée qu'on puisse parler de sevrage en matière de sucre.
Ouais, moi, je veux bien...
Je vais clarifier une chose très importante, d'accord ? On va dire, jusque dans les années 80, milieu des années 80, on considérait effectivement que le sevrage et la tolérance étaient des critères fondamentaux de l'addiction. Le temps a changé, d'accord ? On est maintenant en 2017, Aujourd'hui, on définit l'addiction plus par le sevrage et la tolérance, qui sont seulement deux critères parmi 11, et qui ne sont plus les critères importants de définition de l'addiction. Aujourd'hui, comment on définit l'addiction ? C'est en fait un comportement de consommation sur lequel l'individu n'a plus le contrôle, c'est-à-dire qu'il voit que ce comportement entraîne des conséquences négatives pour sa santé physique et mentale. Il émet le désir répété de limiter son comportement, de réduire sa consommation, mais il n'y parvient pas, il a perdu le contrôle sur sa consommation. C'est l'addiction.
Et Romain Théon, le vrai risque, c'est plutôt les carences nutritionnelles plutôt que l'addiction.
Non, bah, je voudrais vous citer un chiffre.
Répondez-moi, Romain Théon.
Je vais vous répondre à partir de ce chiffre, justement. Dans les drogues dures, la coke, l'héro, et même sur le cannabis, les chances de rechute sont à peu près de 45-50%. Vous savez de combien il est pour les gens qui sont accros au sucre ? 90%.
Béatrice de Rénal.
Alors, en fait, je pense que, si vous voulez, si un bébé est attiré, un fœtus est attiré par le sucre, c'est aussi parce que physiologiquement, la molécule de glucose, elle est parfaite parce que quand vous allez l'ingurgiter, elle va tout de suite vous donner de l'énergie. Et puis, les cofacteurs, ça va être de l'eau et du gaz carbonique. Donc, c'est une énergie qui est propre pour l'organisme. Donc c'est pour ça que physiologiquement, on est adapté à pouvoir être attiré par ce type de substances. Donc le glucose, le saccharose, mais aussi tous les amidons, donc tous les glucides dits complexes.
Est-ce que vous compareriez le sucre à une drogue ?
Alors, moi, je ne suis pas addictologue. Des patients que je vois, l'addictologie n'est pas ma spécialité, loin de là. Mais les patients que je vois, ils sont pas accros au sucre comme certains peuvent être accros à l'alcool. L'alcool, oui, c'est une addiction parce qu'on ne peut pas. Celui qui est accro à l'alcool, il ne peut plus vivre sans. Il est omnubilé par. Moi, j'ai jamais eu des enfants ou des grandes personnes qui étaient omnubilées par le besoin impérieux de manger du sucre.
C'est jamais.
Donc, ouais, je vais essayer d'être court. On va dire que on peut effectivement faire le parallèle que j'ai fait. Il y a une grosse différence que les gens ont tout de suite à l'esprit entre les drogues, bien sûr, le sucre. C'est que les drogues peuvent effectivement induire immédiatement des effets qui sont dangereux pour la santé d'un individu. C'est l'exemple de l'héroïne et de l'overdose, d'accord ? C'est vrai qu'avec le sucre, on n'a pas ça. On peut même boire 3 litres de soda, on ne va pas en mourir, d'accord ? Le sucre est beaucoup. Non, mais justement, c'est ce que je voulais rajouter. Ce qui est beaucoup plus insidieux avec le sucre, c'est que justement, il génère une consommation chronique qui va induire, après plusieurs années, des troubles du fonctionnement de l'organisme. C'est exactement comme avec le tabac. Le tabac, vous pouvez fumer plusieurs cigarettes, vous n'allez avoir aucun danger immédiat. Le danger va venir après plusieurs années de consommation.
Alors, quelle est la responsabilité des industriels dans l'appétence pour le sucre des enfants, Erwan Monteour?
Eh ben, j'en avais déjà parlé plusieurs fois avec Serge. Moi, j'ai un livre qui m'avait bouleversé qui s'appelle Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et on est dans ce monde où on donne aux gens le soma. D'accord ? C'est quelque chose qui leur permet de ne pas penser, qui vont les satisfaire. Je pense vraiment que lorsque les industriels dans les années 70 ont été chercher Warren Moscovitz pour déclencher ce bliss point, ce point de félicité, c'est pour pouvoir avoir le pouvoir sur les placards des gens. On a fait des études sur des enfants, par exemple, où on leur fait goûter des trucs industriels et on leur fait goûter des trucs sains, préparés maison. Ils iront toujours vers le truc industriel.
Objection. Il y a une étude du CNRS et de l'INRA qui a été faite sur les enfants maternels. Donc les enfants qui savent à peine parler, donc des tout petits, ils leur mettent à volonté des buffets avec des buffets de petit déjeuner avec des fruits, avec des healthy et puis avec des choses sucrées. Les enfants naturellement dans leur ensemble vont vers les choses, les fruits, etc. Ne vont pas vers les bonbons. Donc ça veut dire que au départ et après, plus ils les ont suivis pendant une vingtaine d'années, les enfants ne vont pas forcément vers les bonbons. C'est-à-dire que ce n'est pas inné. Par contre, nous, on a fait des tests pour de mise au point d'innovation, parce qu'on essaye de mettre au point pour nos clients industriels des produits qui soient plus sains, donc des mieux-disants nutritionnels. À chaque fois, ils nous ont dit, on est d'accord pour lancer vos produits à condition qu'ils fassent mieux que le référent du marché lorsqu'on est en consommation à l'aveugle. C'est-à-dire que les enfants, on leur fait goûter, par exemple, une pâte à tartiner X que vous connaissez contre une autre qui est meilleure pour la santé, qui est, par exemple, moins sucrée, moins grasse. Les enfants vont toujours vers le plus sucré, le plus gras. Les adultes aussi. Donc, en fait, si vous voulez...
C'est aussi allusion, hein.
Non, parce que est-ce que vous n'êtes pas pareil? Est-ce que nous, on est ici autour de cette table, on n'est pas pareil? C'est-à-dire qu'en fait, on préfère. Et donc, eh bien, quand vous avez une nouvelle marque qui vient, vous allez goûter et vous allez me dire, ah bah oui, mais elle est moins bonne que l'autre, donc je ne vais plus la racheter. Donc, ce qui est, si vous laissez un petit peu la faute des consommateurs aussi, tout ça.
J'aimerais rappeler quand même les préconisations de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS. L'OMS préconise pour les enfants l'équivalent de 3 cuillères à café de sucre par jour.
Oui.
Et les compteurs sont largement explosés.
Entre 11 et 15 par jour. Ouais.
Ah non, en sucre ajouté, c'est plus que ça pour les enfants. Là, sur la France, moi j'évalue le sucre ajouté, donc vraiment le sucre de table ajouté, à beaucoup plus que ça.
À combien alors?
Ah ben là, on est à peu près
11 et 15.
Non, on est à plus que ça. Pour les enfants, là c'est une étude, c'est l'un qu'à deux pour les enfants, on est à plutôt 30-40 grammes.
Alors l'argument des industriels, c'est que le sucre fournit de l'énergie à des enfants en croissance.
Oui, bien sûr, moi aussi je fournis de l'énergie, il n'y a pas de souci là-dessus, mais le problème c'est que le sucre ou les sucres, parce que si c'est encore une fois du surglucose fructose, c'est pire encore, ça apporte de l'énergie, mais rien que de l'énergie. Or, moi je veux que mon enfant, il grandisse, donc il a besoin de calcium, il a besoin de fer, il a besoin de protéines, il a besoin de plein de choses. Donc je préfère lui donner une densité nutritionnelle, donc c'est-à-dire des nutriments, et puis après, s'il a besoin d'encore plus d'énergie, oui, on peut lui donner un peu de sucre. Moi je ne suis pas contre le sucre, je dis juste qu'il faut un équilibre. Et par ailleurs, le sucre, par exemple, peut aider à manger certains aliments. Par exemple, la rhubarbe, si vous ne mettez pas un peu de sucre dedans, elle ne va pas être mangeable. Voilà, donc c'est une aide culinaire, on va dire, mais pas plus que ça.
Bonjour Marjolaine.
Bonjour.
Vous appelez de Grasse, bienvenue. Alors comment faites-vous avec vos 5 enfants?
Alors moi j'en ai 2, en famille recomposée on en a 5. C'est vrai que nous aussi, en termes de valeur, on a toujours fait attention à l'apport de sucre, on a toujours fait des légumes, acheté peu de pâtes à tartiner, etc. Pendant l'enfance, c'est assez facile parce qu'on a finalement le contrôle sur l'alimentation de nos enfants et qu'ils mangent ce qu'on apporte. On arrive à l'adolescence, ça se complique. Et moi, je voudrais témoigner de mon fils qui a 16 ans et demi et qui aujourd'hui a une alimentation principalement composée de sucre, malgré tous nos efforts.
Quels sont vos efforts d'ailleurs?
Nos efforts, c'est à la maison, il n'y a pas de soda, il y a très peu de gâteaux, il y en a de temps en temps, mais pas beaucoup. Il y a aucun plat préparé.
Mais c'est à l'extérieur que ça se passe, en fait.
Mais même à la maison, parce qu'en fait, il remplace certains déjeuners ou certains dîners, il va les remplacer par l'équivalent d'un petit déjeuner. Donc avec la confiture du matin, lui, il va en manger un demi-pot et avec du pain et avec du jus d'orange. Donc le jus d'orange, en fait, on est obligé de finalement d'enlever des placards, parce que si on laisse 2 litres de jus d'orange, dans la journée, ils peuvent être bu par les ados. Alors c'est du jus d'orange sans sucre, du jus d'orange pur jus, etc. Oui. Mais la quantité qui est prise explose complètement les quotas. Et en plus,
maîtrise
à l'extérieur.
Oui, alors en fait, si vous voulez, il faut pas vous en faire. Les adolescents, ils ont un mode de consommation un peu tribal, et ils sont là aussi. L'alimentation, la nutrition, c'est un langage social, familial. Donc là, votre enfant vous parle, il est en train de vous dire que lui, il est quelqu'un d'autre, qu'il est différent de vous. Laissez-le faire, il reviendra naturellement à des choses équilibrées, parce que ça sera bon pour lui et qu'à un moment donné, il y reviendra. Donc il faut le laisser. Après, s'il a que chez vous des aliments entre guillemets sains, c'est-à-dire du jus d'orange et pas des boissons sucrées. Du pain, des céréales et pas des croquettes de petit déjeuner, etc. Eh bien, il n'y a pas de souci. Vous lui avez appris l'essentiel.
Merci beaucoup, Marjolaine, de nous avoir appelé de Grasse. Et vous, comment faites-vous pour limiter le sucre dans l'alimentation de vos enfants? Nous attendons vos témoignages par courriel, grandbienvousfasse@radiofrance.com et au standard de France Inter, 01 45 24 7000. À suivre, le diabétologue Réginald Alouche nous dira si nos enfants sont menacés de devenir à terme des adultes diabétiques.
Grand bien vous fasse sur France Inter. Sugar man, won't you have it? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane.
jet black coat. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. Sugar man, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships.
Rodriguez, Sugarman.
Ali Rebi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h44, comment rendre nos enfants moins accros au sucre? C'est la question posée ce matin avec la nutritionniste Béatrice de Rénal, le chercheur en neurobiologie Serge Hamed, avec l'écrivain spécialiste de bien-être Erwan Manteour. Et nous accueillons le docteur Réginald Allouche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diabétologue, auteur de la méthode anti-diabète. Question très simple, docteur Allouche. Quel est le rôle du sucre pris en grande quantité dans l'enfance, dans la survenue du diabète de type 2 à l'âge adulte?
Écoutez, pour répondre à cette question, il faut peut-être se transposer dans, par exemple, aux États-Unis, où on a aujourd'hui des enfants, enfin, des vieux adolescents, on va dire, de 20-25 ans, qui ont déjà un diabète de type 2, qui était une maladie réservé en fait aux gens de plus de 45-50 ans. En gros, c'était je mange pas trop bien, je fais pas d'exercice. Aujourd'hui, les jeunes sont touchés, et ils sont touchés parce que il y a des choix nutritionnels qui ont été faits, qui ont été poussés par l'industrie. Et là, il faut être clair, il n'y a pas de complot des industriels. Il y a simplement le fait que plus on vend, plus ça rapporte, et donc c'est une bonne entreprise, c'est une entreprise qui gagne de l'argent. Et qu'aujourd'hui, et je voudrais juste saluer ce qu'a fait Serge Hamed, parce que on se connaît un petit peu tous les deux. Il a mis le doigt, il y a plus de 10 ans maintenant, sur ce qu'on ne savait pas du sucre. C'est qu'il a un véritable effet sur notre système de récompense. Et que donc, les enfants, s'ils ne sont pas armés, et je vous ai trouvé un tout petit peu dur avec Thomas, le qui venait de Suisse, qui parlait de ses enfants, parce que il essaye de faire quelque chose.
C'est vrai, c'est
parce
vrai.
Parce qu'en fait, il essaye, il sélectionne ce qu'il achète, il leur en parle. Si vous prenez le temps que passe un enfant devant la télévision et le temps qu'il va absorber de publicité face au temps que vous passez, que nous passons, nous parents, à expliquer ce qu'est l'aliment et comment l'aliment peut être à la fois la plus belle des choses et apporter le plus grand le plaisir, mais parfois être extrêmement dangereux, on serait tout à fait étonné. Donc effectivement, il y a un lien, c'est évident. Je vous donne juste un chiffre. Aux États-Unis, vous savez, il y a une phase intermédiaire avant le diabète qui s'appelle le prédiabète.
Le prédiabète.
Voilà, qui est en gros quand on a une glycémie entre 1,05 et 1,26. Il y a 87 millions de prédiabétiques aux États-Unis qui sont les chiffres officiels. Et pour un pays qui a découvert une certaine aisance avec une classe moyenne qui se développe comme la Chine, c'est 493 millions. Donc en fait, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une incidence réelle entre la consommation et l'apparition de cette maladie qui est une véritable plaie. Je rappelle que c'est la première cause d'amputation, la première cause de cécité, la première cause d'insuffisance rénale. Donc il y a un vrai terme d'impact sur nos, donc nos jeunes et nos enfants. Il faut pas les frustrer, il faut pas leur interdire l'accès au sucre, parce que de toute façon ils ont du pouvoir d'achat et ils peuvent s'en payer. Ce qu'il faut absolument, c'est le réguler, pas dans l'interdit, pas dans la frustration, et dire oui, s'il y a sucre, il y a exercice, pareil. On bouge. Et donc, il faut trouver... Les enfants sont comme des éponges, ils écoutent. Même s'ils ne font pas obligatoirement tout de suite, ils appliqueront ce que vous leur dites. Il faut que les parents prennent une position par rapport à ça.
Merci
Voilà.
Merci beaucoup, docteur Réginald Allouche. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La méthode anti-diabète.
Tu sais qu'ils vont interdire le Nutella ?
Pourquoi ?
Mais je vais appeler la police.
Si on interdit le Nutella, tu appelles la police.
S'ils enlèvent... Le Nutella, je vais le dire au président.
Qu'est-ce que tu vas lui dire au président ?
De remettre le Nutella.
À ton avis, pourquoi est-ce qu'il l'interdirait ?
Parce qu'il y a trop de sucre là-dedans.
Tout le monde dit que le Nutella, c'est du caca.
Ben, en fait, c'est sucré. Les enfants, ils en mangent trop. Moi, je voirais pas pourquoi ils interdiraient le chocolat.
Un extrait d'un reportage de Dorothée Barba en 2010 dans Service Public.
Génial.
Comment faire pour limiter la consommation de sucre de façon très très pratique ? Donnez-nous quelques conseils pratiques. Erwan Montéour, comment ça se passe avec votre petite fille d'une dizaine d'années quand vous faites vos courses avec elle ?
Déjà,
elle vient pas avec vous faire les courses.
Déjà, elle vient pas avec moi faire les courses. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut dire que quand on n'achète pas quelque chose, on l'a pas à la maison. Donc déjà, si on n'achète pas tous les produits hyper sucrés, ils en mangeront pas, qu'à l'extérieur. Donc déjà, on va réduire leur exposition. Puis après, il faut leur donner le goût à des choses qu'on va préparer, qui vont être un petit peu différentes. On va manger plus de fruits. Quand on va faire passer un moment le dimanche ensemble, on va préparer un gâteau en réduisant la quantité de sucre. Et on passe un bon moment ensemble et on est en train de découvrir ce que c'est que le goût, mais le vrai goût.
Béatrice de Rénal, des conseils pratiques pour essayer de limiter la consommation de sucre
pour les enfants. Alors en fait, la première chose, c'est informer l'enfant. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte, et en communiquant auprès des enfants, en donnant des petites conférences aux enfants qui sont très intéressés par la nutrition. Et ils sont comme des éponges, ils écoutent parce que eux, ils ont une espérance de vie qui est plus grande que la vôtre et que la mienne. Et que du coup, ça les motive et ils sont extrêmement ouverts. Après, concernant le sucre, moi, je pense qu'effectivement, pourquoi est-ce que vous achèteriez des tas de bonbons pour la maison? Ce sont des aliments qui doivent rester exceptionnels. Et après, quand vous faites des gâteaux, un petit truc tout simple, vous enlevez une partie du sucre, vous mettez de la compote de pommes dedans. Les enfants, personne ne voit qu'il y a de la compote de pommes. Non sucré, mais de toute façon, ça vous permet d'enlever au moins 40 grammes, 50 grammes de sucre, voire 100 grammes de sucre dans votre dessert. Personne ne voit que c'est allégé. Ça se passe très bien et c'est délicieux.
Serge Ahmed, comment faire pour... la prohibition, ça ne fonctionne pas avec les enfants. Je m'adresse aux neurobiologistes. Interdire les aliments sucrés, ça ne fonctionne pas.
La prohibition ne fonctionne pas avec les drogues non plus. On le voit très bien dans notre société.
Surtout avec les jeunes, la transgression, ça fait partie de la construction.
Voilà. Donc, non, ce que je pense qu'il faut faire, c'est modifier de fond en comble notre environnement alimentaire. Donc ça, c'est facile à dire, hein, je le conçois parfaitement, mais le vrai problème, il est là. C'est que, si vous voulez, on a en nous une biologie qui n'est pas adaptée à l'environnement qu'on a créé. Donc, on est en train de le découvrir, hein, puisque c'est quand même un phénomène récent au niveau de l'histoire. On est en train de le découvrir. Il suffit juste de modifier notre environnement, de limiter les lieux où on pourrait peut-être... je ne voudrais pas rentrer dans des préconisations, puisque ce n'est pas mon métier. Mais je pense que voilà, la solution, c'est de... Il faut effectivement... Vous parliez tout à l'heure d'éducation, c'est très important. Mais il y a également l'environnement, puisque si vous avez des sollicitations tout le temps,
est-ce que vous êtes favorable, par exemple, à la surtaxation des produits sucrés ?
Ouais. C'est une solution, mais pour moi, ce n'est pas la solution idéale. Pour moi, la solution idéale, c'est de réduire les produits qui contiennent du sucre, de ne pas avoir des produits qui contiennent du sucre partout.
Mais déjà, il n'y a aucune politique volontariste de prévention qui est mise en place par les gouvernements, pour une simple et bonne raison, c'est que le poids des lobbies est considérable aujourd'hui, et ils mettent les gens au pouvoir, donc... La révolution, elle peut être que horizontale. Je pense que l'étiquetage alimentaire était extraordinairement mis en place. Marisol Touraine a voulu le faire et c'est le ministre de l'Agriculture qui est venu l'en empêcher. Donc voilà, voilà, on a un vrai problème politique aujourd'hui.
Et on peut rappeler peut-être des conseils simples, Béatrice de Rénal, éviter les sodas évidemment à table, privilégier l'eau. Donner des conseils pratiques.
Oui, mais c'est-à-dire que le syndrome anglo-saxon, c'est de boire autre chose que de l'eau à table. Donc de toute façon, à table, c'est de l'eau et de l'eau seulement. N'oubliez pas que les parents, vous êtes des modèles et que les enfants sont des caméléons. Donc si vous ne buvez, si vous ne mangez pas de fruits, ils mangeront pas de fruits. Si vous buvez du vin et vous fumez, ils feront pareil. Donc de la même façon pour le sucre. Le sucre, c'est une très bonne chose, mais en toute petite quantité.
Est-ce qu'on peut utiliser des édulcorants comme la stevia ou le sucralose ?
Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Vous prenez moins de sucre, ça suffit bien.
Et le miel ? Beaucoup de questions sur le miel.
Le miel, c'est du sucre, c'est pareil. Voilà. Donc ça vous fait plaisir, prenez du miel, mais c'est pareil.
Et Romantéour ? Sur les édulcorants, sur le miel, on évite également.
Le miel, c'est un bon truc, c'est un produit de la ruche avec plein d'autres propriétés, donc il sera sans doute mieux qu'un sucre de merde. Mais il faut essayer de réduire les sucres, c'est une évidence.
Bonjour Alice Gretam.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Alors, vous publiez chez Solar un ouvrage qui s'appelle « Les desserts sans gluten, sans sucre raffiné, sans protéines animales ». Peut-on vraiment se régaler avec un bon dessert en limitant le sucre ?
Oui, j'en suis vraiment convaincue et c'est ce que j'essaye de montrer, parce que je propose aussi des recettes à travers mon blog auvertavecLily.fr. Moi, je pense qu'il faudrait pas terminer tous les repas par un dessert, comme Erwan Montéour. Mais après, pour ceux qui veulent ce petit côté sucré, je pense qu'on peut complètement se passer de sucre, voire même déjà le remplacer par des fruits. Et je peux vous donner une recette.
Allez, une recette rapide, Alice Gretam.
Une recette rapide.
Si on veut limiter le sucre dans l'alimentation de nos enfants.
Alors, moi, j'aime beaucoup faire des recettes, par exemple, des petites tartelettes, et j'utilise des dattes et de la poudre d'amande pour faire ma pâte. Donc, je les mixe avec... Donc, mes dattes, je les fais tremper. Je les mixe avec de la poudre d'amande, un peu une pincée de sel, un peu d'eau et un tout petit peu d'huile pour que ça tienne. Et ensuite, dessus, au lieu de mettre de la crème ou voilà des produits comme ça, j'écrase juste un fruit. Donc, ça peut être une banane, une poire, un fruit un peu mou. Comme ça, et puis après on peut saupoudrer de noix de coco râpée, décorer avec des fruits de saison, donc des kiwis si on est en hiver, ou des fraises en été par exemple. Et j'ai réalisé cette recette avec des ados parce que je travaille dans un collège, et ils étaient épatés et ils m'ont dit qu'ils préféraient ça à une crème dessert.
Bon, donc, on retrouvera cette recette sur notre page Facebook, Alice Gretam, merci beaucoup.
Et sur mon blog.
Moi j'ai une recette toute simple, d'un dessert tout simple à faire sans sucre ajouté. Vous prenez des framboises bio surgelées dans un mixeur, un peu de vanille en poudre, une orange pressée, un yaourt nature, et puis ça vous fait une glace maison sans sucre. Vous validez, Béatrice de Rénal ?
Oui, je valide. Par contre, attention, les dattes, tous les fruits secs, effectivement, les dattes, c'est en général sucré, et souvent il y a du sucre ajouté, donc attention quand même.
Merci Béatrice de Rénal, Erwan Montéour, Serge Ahmed, d'être venu ce matin. À suivre, Il était une fois dans le web de Julia Foyce.
Mademoiselle, s'il vous plaît.
Oui, madame.
Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
Ah non, je m'excuse, monsieur, nous ne faisons pas cela ici, vous êtes trompé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Qu'est-ce qui se passe ?
Oh, bah c'est encore une crêpe au sucre.
Les engrenages continuent de tourner.
Il était une fois...
Ça ne s'arrête jamais.
...dans le web.
Bonjour, rebonjour Julia Foyce.
Bonjour.
Alors
tout
on
monde.
Vous retrouve tous les mercredis dans il était une fois
oui.
dans
il. Non,
problème
dans
de...
il. Dans il, c'est bien,
dans il, c'est bien aussi.
Hein, oui. Moi je suis pour.
Dans il était une fois dans le web. Alors nous avons évoqué ce matin les risques liés au sucre et les risques de surpoids. Le surpoids qui peut entraîner un risque moins visible à l'œil nu et qui détruit de l'intérieur. La grossophobie qui inonde les réseaux sociaux, et c'est l'histoire que vous nous racontez ce matin, une histoire qui nous amène au Canada.
C'est l'histoire d'un dos nu, et une peau de lait, c'est du velours, tiens, on dirait. Un dos nu avec des pleins, des déliés, c'est arrondi, et jusqu'aux reins, il y a des courbes, c'est certain. Mais ici, elles sont assumées, alors l'œil veut s'y attarder. Elles sont divines et éclairées par la lumière du projecteur qui en caresse le postérieur, lui-même alors mis en valeur par des franges d'une jupe violette ou la coquine, elle est coquette. Une main lascive laisse échapper un soutien-gorge à balconnet. Oups, il est tombé. Ça la fait rire, madame de dos, elle nous regarde, cheveux relevés, par sa main gauche, attachée, elle est mutine et elle badine. Les joues rosies par le plaisir, celui qu'elle sait avoir donné. C'est un défi qu'elle vient de relever. Car dans un monde où la minceur est une règle tyrannique, cette Jessica Davy Quantic est bien trop ronde pour les censeurs, pour les seigneurs de l'esthétique. Ses canons l'ont longtemps clouée au pilori du grand public. Tes bourrelets faudrait les cacher, tu n'as pas honte, non tu devrais. Longtemps elle les a encaissés et puis un jour elle a osé s'inscrire dans une revue burlesque, sur scène se mettre nue ou presque. On l'applaudit, on la trouve belle, elle a sa revanche, du moins croit-elle. Et le soir même sur Instagram, on peut y admirer la dame. Jessica a mis cette photo, celle où elle jubilait du dos. En légende, comme pour souligner, elle écrit cet hashtag fuselé, genre merde les standards de la beauté. En quelques heures, la photo est 173 fois aimée, 49 fois commentée. On applaudit, on encourage, on sourit et puis on partage, on dit bravo, quel joli dos, on dit banco, franchement chapeau. Jessica sent pousser des ailes dans ce dos qui fait qu'elle est belle. Le premier soir, elle va se coucher, se reposer sur ses lauriers. C'est le matin que ça va se corser, parce qu'elle est à peine réveillée. Quand elle va se reconnecter sur Instagram, elle va se jeter pour lire tous les commentaires écrits postés depuis hier. Des tas de nouveaux, il y en a, c'est clair, mais leur lecture est délétère, ça pique les yeux, ça griffe l'ego, c'est des tomates sur ce dos. Parce qu'on veut lui faire de la peine, parce qu'on la traite de baleine. On lui dit qu'elle est dégoûtante, on lui dit même qu'elle est immonde, et entre deux phrases insultantes, on lui rappelle le sort des rondes. L'obésité tue, tu sais, tu devrais être morte, tu es faite de telle sorte que je serais toi, j'en finirais. Je me couperais les poignets et toute ma graisse j'avalerais. Je n'invente rien, j'aurais aimé, mais ces mots-là, ceux qui font mal, ils ont pourtant été postés. Jessica Lee, éberluée, remonte le fil, estomaquée, trouve un compte qui lui est dédié, une photo d'elle et un appel à la pourrir, à la conchier. Jessica en est débectée, envie de vomir ou de pleurer. Jessica a la tête courbée, prête à se faire encore gifler. Non, pas question, car cette fois, elle va riposter. Chercher parmi ses détracteurs, celui qui se targue d'être l'auteur des commentaires les plus violents, de ceux qui font le plus saigner. Elle finit par le retrouver. Il vit à Londres, il a 15 ans, alors elle alerte son père pour dire ce que le fils a fait. Il faut le corriger. Sévère. Certainement pas, répond le père. Il a bien raison, mon fiston. L'obésité est un fléau. L'exhiber sur une photo, c'est s'exposer au colibet. Monter sur scène quand on est grosse, c'est indécent. Alors mon gosse, il a bien fait, c'est évident. Le père est pire que le fils. Jessica en a la jaunisse, mais elle contacte le lycée au proviseur. Elle veut parler, lui dire que c'est vide dans l'école. L'un de ceux qu'on appelle un troll, un méchant qui répand son fiel et qui fait de la haine son miel. Le proviseur en est choqué. L'ado est vite convoqué et temporaire. Viré. Il pourra revenir au lycée quand il aura su rédiger une lettre d'excuses faite à la main à Jessica, qui le vaut bien. Pour preuve, dès le lendemain, elle prend la pose, l'air de rien, gainée de noir et bouche rouge, plantée haut sur ses talons de 12. D'un œil, elle toise l'objectif et le regard est abrasif. Ici, la chair est triomphante parce qu'elle est exubérante, postée sur les réseaux sociaux sans le besoin du poids des mots, parce que le choc de cette photo, c'est tout le chic de ce dos.
Julia Foyce, tous les mercredis dans Grand Bien Vous Fasse et le dimanche à 17h dans Demain, la veille. C'est... Vous parlez de quoi dimanche?
Oula, contraception. La contraception du futur, c'est bon, je l'ai.
Demain, on se demande si la guerre entre les générations aura bien lieu. Nous verrons si les liens intergénérationnels se renforcent ou pas. Nous recevrons le sociologue Serge Guérin et le philosophe Pierre-Henri Tavoyot. Nous attendons vos témoignages par courriel. Grand Bien Vous Fasse à radiofrance.com. À la technique ce matin, Ronan Mahé et Maxime Ingrand. La programmation musicale était signée Muriel Pérez.